Victor de Pascal Ouyabona Yakombona. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous assumez le rôle du préfet de la Basse-Côte. Actuellement, nous sommes à Alindao. Nous avons été au lycée de Alindao. La situation est catastrophique. Dites-nous, est-ce que vous êtes au parfait de la situation du lycée de Alindao?
Il n'y a pas que le lycée d'Alindao, parce que si je parle de lycée d'Alindao, ça veut dire que je particularise les choses. Je pourrais que parler des établissements scolaires au niveau de la préfecture, en commençant par fondamental 1 et puis fondamental 2. En ce qui concerne fondamental 1, vous voyez, pour une si vaste préfecture comme la préfecture de la Basse-Côte, qui a une densité énorme, parce que elle vient après Bangui, en ce qui concerne la densité, elle n'a que 5 instituteurs et 15 instituteurs adjoints, 681 mètres par an pour 62 400 élèves. Vous voyez, c'est énorme au niveau de fondamental 1. Donc, le manque des enseignants est criard. Au niveau de fondamental 2, au lycée d'Alindao, vous trouverez que 2 enseignants. Au niveau de lycée de Moubaï, vous trouverez que 3 enseignants. Vous voyez, lycée de Kembe, 3 enseignants, je crois aussi, dans les CG. Il n'y a pas des enseignants. C'est ceux qui sont appelés à jouer le rôle d'administrateurs ou qui sont obligés, les directeurs, les censeurs, qui sont obligés encore de se reconvertir en professeurs. Ça fait double emploi pour eux et ils sont payés que pour un seul salaire, vous voyez. Donc, le problème des enseignants dans la préfecture de la Basse-Côte est une situation qui attire notre attention et que nous sommes en train de travailler pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions pallier à ces manques.
Quels sont les efforts consentis pour trouver une solution à cette préoccupation, car c'est l'avenir de la République centrafricaine qui est en jeu?
Bon, nous voudrons déjà jeter un fleur au gouvernement, parce qu'entre-temps, il y avait que 6 inspections académiques, ce qui rendait quasiment difficile le travail. Mais avec ce que le gouvernement a réfléchi et a changé de stratégie, dans les 20 préfectures maintenant, il y a 20 inspections académiques, il y a 20 centres régionaux pédagogiques, CPR. Vous voyez, c'est une solution déjà. Et la proximité de l'inspection académique auprès de ces établissements est un début de solution, parce que aussitôt pris fonction, le inspecteur d'académie de la Basse-Côte a fait une tournée et a sorti le tableau dont je vous ai énuméré tout à l'heure, et nous sommes en train de travailler. Bientôt, on a lancé le recrutement de l'ENI. La préfecture de la Basse-Côte a envoyé 9 étudiants qui sont déjà à l'ENI, et bientôt ce serait pour le CPR, je crois. Le nombre va s'accroître dans un bref avenir et ça pourrait pallier. Donc l'État a bien fait de redéployer l'inspecteur académique auprès de chaque préfecture, et ça c'est déjà une début de solution. Je crois dans un proche avenir, ces situations de ces enseignants là trouvera une solution.
Aujourd'hui, la ville d'Alindao manque de maisons carcérales. Est-ce que c'est pas une source qui peut engendrer l'impunité et qui peut aussi créer en vague dans la région des bandits, parce que les gens ne peuvent plus être corrigés quand ils commettent des infractions?
Il n'y a pas qu'à Alindao. Dans la préfecture, nous ne disposons pas de maisons carcérales. Mais vous voyez, on ne peut pas tout faire à la fois. Nous revenons de loin. La crise qu'a traversée la République centrafricaine n'a pas épargné la préfecture de la Basse-Côte, qui a passé les moments les plus sombres de son histoire. Et là, les choses sont en train de revenir. Nous avons déjà dans la ville la présence des magistrats. C'est déjà quelque chose à louer. Les autres acteurs de justice sont en train d'être mis en place, notamment la gendarmerie et la police sont en train d'être redéployés. Et je crois que la prochaine étape, ce serait la construction ou la réouverture des maisons carcérales. Donc, les choses sont en train de se faire. Donc, je crois jusqu'en 2025, tout redeviendra normal dans la préfecture de la Basse-Côte.
Quelle est la situation sécuritaire dans la ville d'Alindao? Est-ce que après cette crise, tout est déjà stabilisé, les gens vaguent librement leurs occupations?
Il faudrait que je parle de la préfecture. La situation, l'environnement sécuritaire s'est nettement amélioré par rapport aux années précédentes. Mais ce qui n'exclut pas qu'il y a encore des groupes armés qui sont là, notamment dans quelques sous-préfectures. Ils sont là, ils sont présents et nous sommes en train d'y travailler pour que petit à petit, la paix, la quiétude, la libre circulation puissent revenir. Et étant donné qu'on ne parle pas de l'aspect sécuritaire sur la place publique, il y a des stratégies qui sont là que je ne me permettrai pas le devoir de dévoiler ici sur les zones. Je pourrais vous rassurer, nous sommes en train d'y travailler, je crois, avec les partenaires qui sont là, les Russes, les FACA, les FSI et aussi la MINUSCA. Nous tous, nous sommes en train d'y travailler pour que la paix puisse revenir définitivement dans la préfecture de la Basse-Côte.
Victor de Pascal Ouyabona Yakombona, la population de la préfecture de la Basse-Côte fait face à cette question de difficile accès aux services de base. Je parle de la route, je parle d'accès à l'eau potable, à l'éducation de base, aux soins de qualité. Que fait l'État dans ce sens?
L'État est en train de travailler. Vous voyez, je donnerai quatre figures à Alindao. Il y a gratuité des soins. Vous voyez, qui paye? C'est l'État qui paye, qui met à la disposition de la population. Il ne faudrait pas qu'on se voit à la face. Mais tout ne peut pas se faire en un jour. Et les choses sont en train de se faire. Mais vous voyez, l'État a des difficultés. Nous sommes en train d'y travailler pour donner une réponse appropriée à cette population. population qui voudraient que les choses se fassent à leur rythme. Alors que l'État que je représente ici a beaucoup fait et les choses évoluent en grande enjambée. Entre-temps, je crois, il y a de cela 2 ans. Personne ne pourrait pas penser que Alindao allait être cette ville que vous voyez aujourd'hui, où il y a l'ambiance, où les gens ne dorment pas la nuit, il y a l'activité 24 heures sur 24 heures. Le problème qui se pose maintenant, c'est le problème des infrastructures routières. Parce que ça, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Le tronçon Bambari, Alindao, Mobaï, Alindao, Bangassou, c'est très dégradé. Mais l'État a inscrit dans son budget cette année pour faire les travaux de reprofilage de l'axe Bambari, Alindao, Mobaï. Donc vous voyez, c'est des réponses que l'État est en train de donner à cette population. En 2020, je donnerai toujours le district sanitaire d'Alindao Mingala sur, je crois, 40 formations sanitaires. Il n'y a que 6 qui étaient fonctionnelles. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a au moins 38 formations sanitaires qui vivent. Et là encore, on envisage à créer. Il y a d'autres formations sanitaires qui sont en cours de création et qui verront jour dans bientôt. Donc vous voyez, l'État est en train de travailler, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts.
Monsieur le préfet, la situation humanitaire reste encore précaire dans la localité puisque aujourd'hui, plus de 15 000 personnes sur le site des déplacés de l'église catholique à Alindao. Est-ce que le gouvernement envisage déjà leur relocalisation à la maison parce que selon ces déplacés, ils n'attendent que l'État pour repartir chez eux?
Mais au départ, c'était combien sur le site? C'était plus de 47 000. Si aujourd'hui nous sommes en 15 000, ça veut dire que l'État a fait beaucoup. Vous allez faire la route Alindao, Mobaï, vous verrez que bon nombre sont repartis chez eux. Et les acteurs humanitaires par entremise de l'État sont venus, ils ont construit des logements. Et bon nombre de ceux qui sont encore là, c'est ceux qui sont dans Alindao, où certains ont leur maison. Ça, il ne faudrait pas qu'on se voie la face. Certains ont leur maison, qui refusent délibérément de regagner chez eux. Ils attendent à ce que l'État vienne les accompagner ou leur donne de l'argent afin qu'ils puissent repartir. Mais il y a certains qui sont des gens qui sont venus d'ailleurs et que nous sommes en train de travailler. Je crois avec le ministère de l'Action humanitaire est en train de travailler. Il y a une mission qui était déjà venue ici pour recenser les besoins et l'État est en train d'y réfléchir. Et je crois dans un proche avenir, il y aura une réponse pour ceux qui sont sur le site.
Les agents représentant les régies financières ont déserté la ville d'Alindao, ce qui fait perdre à l'État des devises. Aujourd'hui, est-ce que vous avez mené des démarches qu'il faut pour ramener dans la localité ceux qui récoltent des taxes au nom de l'État afin de renflouer la caisse du trésor public?
Je ne parlerai pas seulement que des agents de régie financière, mais d'autres fonctionnaires aussi. Vous voyez, quand on envoie un fonctionnaire dans la Basse-Côte pour lui dire que c'est une sanction, alors que ce n'est pas une sanction, la préfecture de la Basse-Côte fait part entière de la République centrafricaine. Le problème se situe à 2 niveaux. Vous voyez, je donnerai pour 4 figures certains fonctionnaires qui sont envoyés ici. Pour une seule année, vous verrez que ces fonctionnaires-là ont 4 décisions d'affectation. La première décision l'affecte dans la Basse-Côte, mais il ira voir son parent qui, je sais, à Bangui, pour négocier à ce qu'on puisse le raffecter ailleurs. C'est ce qui le fait le plus souvent et ce qui fait que les gens ne veulent pas venir. Et nous menons des actions, mais certains directeurs de ressources à Bangui nous causent problème. Quand je parle là, j'ai les preuves. Et je viens d'avoir une note de service. Le chef de l'État a pris un décret pour envoyer un chef de service, mais c'est son directeur de ressources qui va prendre une note de service pour le maintenir à Bangui. Vous voyez, c'est ça qui fait que ça cause problème et ça donne pas l'envie à certains de revenir. J'ai déjà balancé, je crois, 2 communiqués à leur rencontre. Je leur ai demandé de rejoindre leur poste immédiatement ou plus tard, bien avant la fin du mois de mars. Ceux qui s'hasarderont à ne pas venir rejoindre leur poste, mais se verront leur salaire coupé. Ça, nous n'allons pas passer par 4 chevins. Votre occasion est la bienvenue pour encore je puisse leur relancer ce dernier appel. Et je crois bon nombre sont en train de venir. Mais ceux qui pensent qu'ils sont toujours couverts par leurs parents à Bangui et que nous autres, c'est nous qui devons venir nous user sur le terrain, mais ils verront, leurs salaires seront coupés. Et ça, nous allons même lancer une poursuite contre eux. Je donnerai pour figure parce que j'ai répertorié tous les fonctionnaires. Il y a certains fonctionnaires qui sont affectés ici depuis 2017. Ils n'ont jamais pris service ici. Ils sont à Bangui en train de percevoir indûment leur salaire. Et quand on paye le salaire aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers à aller dans les banques pour percevoir leur salaire. Vous voyez, ça c'est de l'injustice.
Victor de Pascal, oui, Abona, Yakombona. Merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur Jusquin Senapay, d'avoir bien voulu faire le déplacement jusqu'à notre hauteur pour restituer la vérité parce que vous voyez, informer, c'est de donner la vérité. La véracité de l'information, c'est ça. Vous êtes devant moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez bravé, pour venir. Est-ce qu'on vous a tué quand les gens racontent n'importe quoi? L'information, c'est pas de rester, raconter n'importe quoi, mais c'est de venir à la source. C'est pourquoi je vous jette des fleurs d'avoir bien voulu faire le déplacement pour nous rencontrer et échanger avec nous sur la situation socio-économique et sécuritaire de la préfecture de la Basse-Côte. Je vous remercie.